L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
L'actualité judiciaire ce matin, nous le disions, puisque vous recevez le procureur de la République.
Oui, Yves Dupas, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur plusieurs dossiers. On va commencer par le dossier Ercal, hein, qui a entamé une procédure collective auprès du tribunal de commerce. C'était hier avec le dépôt de bilan de la compagnie. On vous entend rarement parler d'affaires qui ne concernent pas forcément... le pénal, hein, c'est devant le tribunal de commerce. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre la parole sur ce dossier parce que c'est un dossier qui vous semble important. Il y a de l'inquiétude aujourd'hui autour d'Ercal.
Il y a urgence pour Air Calédonie, pour ses 220 salariés. C'est une société qui rend service par ses prestations de transport aérien à toute la population calédonienne. Et donc, effectivement, la justice, par cette décision du tribunal de commerce, entend d'abord sauver Air Calédonie. Nous en sommes là. Hein, 256 millions de passifs exigibles. Donc une procédure de redressement judiciaire ouverte hier qui permet, par ce mécanisme, de geler toutes les dettes antérieures au 14 avril et d'offrir à la société de reprendre son activité avec une trésorerie qui est sauvegardée, mais qui est nécessairement limitée. Hein, donc c'est 6 mois de poursuite d'activité renouvelable durant 6 mois. Donc les échéances arriveront très très vite pour Air Calédonie.
Mais la justice, par cette procédure, permet de protéger en attendant la compagnie d'une certaine façon et son activité.
Ben c'est sauvegarder effectivement l'activité de la société, lui permettre de se réorganiser effectivement par ce gel des dettes, c'est effectivement la capacité pour une entreprise de retrouver un souffle et une activité suffisante.
Alors l'activité suffisante, elle viendra évidemment du déblocage des aérodromes des îles. Hein. Depuis le 2 mars maintenant, les avions d'Ercal ne vont plus vers les Loyautés. Ça a repris l'île des Pins. Est-ce que sans reprise de l'activité, la compagnie peut être sauvée ?
Il est impératif que la situation évolue dans les jours qui viennent pour Air Calédonie. J'allais dire pour d'autres structures économiques aux îles Loyautés qui sont en train de mourir à petit feu. Parce que nous n'avons pas que la procédure de redressement judiciaire d'Air Calédonie. Aux îles Loyautés, nous avons toute une série de structures économiques qui sont en redressement judiciaire, qui risquent de basculer très vite en liquidation judiciaire. Hein, le tourisme est un degré zéro d'activité depuis un certain nombre de semaines. Il y a urgence.
Quand on parle de liquidation judiciaire, ça veut dire que là, pour le coup, la justice ordonne la fermeture de l'entreprise.
C'est la fermeture de l'activité. C'est la cessation de l'activité. Et je ne pense pas que cette situation soit dans l'intérêt des Calédoniens, d'une manière générale, et également, des habitants des îles Loyautés.
Dans ce dossier, monsieur le procureur, est-ce que vous savez qui discute avec qui ? Est-ce qu'on sait un petit peu comment les choses se passent ? Et s'il y a au moins des contacts avec les collectifs d'usagers qui bloquent les aérodromes ?
Alors, je sais que le commissaire délégué, parce que j'ai lu la presse, a tenté une médiation. Ceci ne me concerne pas, hein, dépasse mon champ d'intervention. Mais la justice donne une dernière chance à Air Calédonie.
Est-ce que vous sentez, vous avez eu retour de tensions qui pourraient exister dans les îles, justement à cause de la fermeture de ces aérodromes ? Est-ce que ça pourrait aussi générer des tensions sur les îles ?
Écoutez, des tensions, il y en a, bien évidemment. Hein. Moi, je crois que maintenant, la raison... La sagesse doit l'emporter.
Donc il faut que les choses se règlent rapidement.
Tout à fait.
Une autre affaire a occupé l'actualité ces derniers temps, c'est ce qui s'est passé à Wano. Je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais il y a une personne qui a été mise en examen et placée en détention provisoire. L'affaire semble claire du côté de la justice aujourd'hui.
Alors d'abord, c'est un drame. C'est un drame parce qu'un jeune de 20 ans... qui décède dans ces conditions-là, c'est un traumatisme majeur, indélébile pour sa famille. Hein. Tout ceci par rapport effectivement à cette violence sans limite que l'on voit donc à la lumière de cette procédure, mais à la lumière de d'autres procédures. Quand on intervient en groupe avec une arme de chasse, un couteau pour effectivement exiger le départ des personnes ou en tout cas leur signifier qu'elles seraient sur un terrain privé, tout ceci aussi dans un contexte d'alcoolisation, bien sûr la situation est à haut risque. Et là, en tout cas, c'est un drame. D'abord, c'est bien sûr une procédure criminelle qui a été diligentée par la section de recherche et la brigade de recherche de la FOI, qui a abouti à la mise en examen de ce jeune pour des faits de meurtre et des violences aggravées, puisqu'il a blessé gravement une personne. Une mise en examen suivie d'un placement en détention provisoire, des faits extrêmement graves. Là aussi, quel gâchis, quel gâchis pour ce jeune et quel gâchis pour sa famille. Donc la Nouvelle-Calédonie a une particularité, c'est ce rapport inquiétant à la violence.
Alors, est-ce que, et il faut en parler aussi parce qu'on en parle régulièrement, mais on a l'impression que les choses n'évoluent pas, c'est le rapport à l'alcool qui crée aussi cette tendance à la violence. Ces derniers jours, il y a eu ce qui s'est passé à Wano, il y a eu aussi cet homme qui est mort à Kuma, qui a eu dans le sud, au Mont-d'Or aussi, deux frères qui se sont battus avec encore de l'alcoolisation. Ça reste aujourd'hui un fléau majeur dans les faits que vous avez à traiter ?
Alors, l'abus d'alcool reste un fléau, incontestablement, et l'alcool vient effectivement colorer une grande majorité de nos procédures, et notamment de violences intrafamiliales, mais pas seulement, de violences sur la voie publique. Après, il y a autre chose. Il y a cette dimension au plan psychologique incapacité à accepter une frustration. Dans le rapport à l'autre, il y a une volonté de domination avec effectivement des comportements très vite violents et qui aboutissent, hélas, à ces drames.
Alors, monsieur le procureur, dans cette affaire de Wano, il y a aussi, vous avez ouvert une enquête en flagrance, parce que sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes, probablement des témoins, qui ont été menacés. Ça aussi, c'est de plus en plus fréquent, c'est-à-dire l'usage des réseaux sociaux pour mettre la pression ou en tout cas faire peur à un certain nombre de personnes dans les enquêtes.
Ces comportements constituent des délits, de menaces de mort, de pression, effectivement, sur des témoins ou des victimes. Nous allons bien évidemment engager des poursuites contre un certain nombre d'individus qui sont d'ores et déjà identifiés et bien évidemment qui répondront de leurs actes par rapport à ces faits qui sont tout à fait inacceptables, qui consistent à finalement faire pression sur des témoins en vue du retrait de leur déclaration, avec des risques d'atteinte à leur intégrité physique. Tout ceci est inacceptable dans un état de droit.
Donc ce sera poursuivi si la justice estime que c'est nécessaire de le faire.
Bien évidemment, si l'infraction est suffisamment démontrée, et c'est le cas manifestement d'ores et déjà dans un certain nombre de situations, eh bien des poursuites seront engagées incontestablement.
Ça peut aboutir à quelle peine ce genre de pratique sur les réseaux sociaux ?
Des peines d'emprisonnement ferme, effectivement, incontestablement.
Monsieur le procureur, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, il y a les affaires qui concernent les violences intrafamiliales. Ce week-end, il y a eu beaucoup... la justice a eu à traiter beaucoup de dossiers. Alors on dit qu'on en parle beaucoup plus, que la parole s'est libérée, c'est sans doute vrai, mais est-ce que les choses changent vraiment sur le terrain ? Est-ce que vous constatez qu'il y a encore toujours beaucoup de violences intrafamiliales ?
Les violences intrafamiliales restent l'une des formes de délinquance, j'allais dire, récurrente sur ce territoire. Ça reste une problématique très prégnante. Malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place, notamment sous l'action du Grenelle, la justice entend répondre à ce contentieux avec toute la réactivité et la fermeté nécessaires. Ce week-end, deux personnes ont été déférées pour des violences intrafamiliales. L'une a été placée au centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, donc à Nouméa. C'est l'éviction donc, du domicile et une prise en charge pluridisciplinaire pour prévenir une récidive. Le second a été, placé en détention au regard d'une peine de 6 mois déjà prononcée pour des violences intrafamiliales sur la même victime.
Il y a des structures qui ont été mises en place. Vous travaillez avec les collectivités sur ce sujet-là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il reste bien évidemment à mener d'autres actions. Alors nous avons quand même mis en place beaucoup d'outils, hein, avec l'appui du territoire, hein, le travail exemplaire d'Isabelle Chamoureau en la matière. Le milieu associatif a aussi fortement contribué à l'émergence de ces structures, hein, la RAVIF notamment, la province sud, a engagé une politique très dynamique, hein, sur ce thème. Hein, et un exemple, nos stages de sensibilisation et de responsabilisation des auteurs de violences conjugales sont portés par la DEPAS Sud et le service du relais, avec toutes leurs compétences, toutes leurs expertises. Donc vous voyez, beaucoup de choses sont menées, protection des victimes, accompagnement des victimes, mais cette action, cette mobilisation, elle est inégale au plan du territoire, et il nous reste un certain nombre de mesures à enclencher pour couvrir l'ensemble du territoire, pour que cette politique publique ait une vraie dimension territoriale.
Yves Dupin, procureur de la République, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.